crise économique en Argentine.
Eh bien, on vous retrouve dans 3 minutes. France Inter, il est 15h. Les infos, Laetitia Gaillet.
Il aimait les mots et la littérature par-dessus tout. Il avait interviewé les plus grands écrivains de son temps. Bernard Pivot a rendu son dernier souffle. Aujourd'hui, c'est sa famille qui l'a annoncé à l'agence France Presse il y a quelques minutes. Retour sur la vie de ce romancier et présentateur de télévision. C'est avec Ilana Marioussef.
C'est peut-être un dictionnaire qui est à l'origine de la vocation de Bernard Pivot, celui dans lequel il se plongeait, fasciné, dans la maison familiale de Quincier en Beaujolais, à l'époque où son père était prisonnier en Allemagne. Sitôt diplômé du centre de formation des journalistes, il se lance au Figaro littéraire pendant plusieurs années, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau patron, Jean d'Ormesson, qui le poussera dehors. Peu rancunier, Bernard Pivot en fera plus tard son invité fétiche d'apostrophe, 14 invitations en 15 ans d'émission de 1975 à 1990. Les plus grands écrivains de la planète défilent dans son studio pour des émissions d'anthologie, Marguerite Duras, Françoise Sagan, Marguerite Yourcenar dans son île, Claude Lévi-Strauss, Solzhenitsyn, Bukowski, Ivre mort, Le Clésio ou encore Modiano. Pivot donne le goût de lire au grand public qui se précipite en librairie les lendemains d'émission. Mais il n'y a pas que les livres. Pivot célèbre dans un même élan gourmand le vin, la gastronomie, le football et la littérature. Après la télévision, une autre vie commence en 2004, celle de juré du prix Goncourt, dont il contribue à assainir le fonctionnement. Il en devient président en 2014, une fonction qu'il exercera avec une autorité bienveillante avant d'annoncer son départ le 3 décembre 2019. Il voulait, disait-il, profiter des quelques étés tranquilles qui lui restait.
Bernard Pivot, qui venait tout juste d'avoir 89 ans. Je vous rappelle donc la mort du romancier et présentateur télévision Bernard Pivot. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. François-Xavier Bellamy porte plainte. L'eurodéputé tête de liste des LR aux européennes a été l'objet d'une tentative de cyberattaque. Le groupe pirate informatique s'appelle APT31. Les États-Unis et le Royaume-Uni le considèrent lié au gouvernement chinois. François-Xavier Bellamy fait le parallèle avec la visite d'État de Xi Jinping en France. On a le sentiment, dit-il, qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui se joue en termes d'ingérence étrangère. Des experts de l'ONU condamnent aujourd'hui les violences contre les femmes et les enfants à Gaza. Violences y compris sexuelles et des disparitions. Les femmes sont les cibles d'attaques aussi vicieuses, aveugles et disproportionnées. Israël ne ménage pas ses efforts pour détruire leur vie et les priver de leurs droits fondamentaux, disent ces experts. 50 000 femmes palestiniennes enceintes et 20 000 nouveau-nés courent des risques inimaginables. Israël accuse ses experts d'ignorer la militarisation systématique par le Hamas, des établissements de santé, des infrastructures civiles dans la bande de Gaza. Et puis Washington dénonce de son côté la tentative donc de l'offensive israélienne sur Rafah. De son côté, l'université Columbia, où il y a eu de nombreuses mobilisations pro-palestiniennes, l'université annonce qu'elle annule sa grande cérémonie de remise des diplômes. France Inter, il est 15h30.
Nagui, vous savez que je vous aime beaucoup. Vous m'avez même dit une fois au détour d'un couloir, Paul, ne le répète pas aux autres, mais je te considère comme mon fils.
France Inter, 11h, Nagui et Leïla Kaddour.
Et dans votre bande originale, je demande
Lisa Delmoitier,
Paul Mirabel, quoi. Putain, il est complet jusqu'au jugement dernier, moi aussi je veux de l'attention.
Tristan Lopin.
Si on peut plus cracher sur les autres pour essayer de se sentir un peu mis en valeur de temps en temps.
Alexandre Cominec.
Comment va la bande préférée?
Mais bien.
Tanguy Pastureau.
Je ne suis qu'amour, je suis la version sans cheveux de Paul Mirabel.
Ça, c'est de la bande.
Et c'est tous les jours sur Inter, de 11h à midi et demi.
Affaires sensibles sur France Inter, c'est avec Fabrice Trouel. Bonjour Fabrice.
Bonjour Laetitia Gaillet. Bonne semaine à vous et on vous retrouve à 16h pour un prochain flash. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'Argentina Zoo ou les émeutes historiques de 2001 en Argentine. Les 19 et 20 décembre 2001. Ce pays vit l'une des crises les plus graves de son histoire. Une crise économique, sociale et politique inédite qui plonge le pays dans le chaos et le place au bord du précipice. En faillite complète, en vérité. Alors, les émeutes et les pillages s'enchaînent. Les manifestations et les grèves générales aussi. La répression est terrible. Elle fait 39 morts et plus de 300 blessés. Des milliers de personnes sont arrêtées et 5 présidents se succèdent en une dizaine de jours. Ces deux journées constituent l'apogée d'une crise beaucoup plus profonde, entamée plusieurs années auparavant et dont l'Argentine souffre encore aujourd'hui. Une crise à la fois conjoncturelle et structurelle qui frappe ce grand pays d'Amérique latine, son histoire, sa situation politique et sociale spécifique. L'occasion ici de raconter comment ces événements qu'on appelle donc l'Argentinazo ont pu être la matrice des nombreuses crises liées à certaines politiques néolibérales lors de ces dernières décennies. Notre invité aujourd'hui, Carlos Quenant, économiste, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à l'Université Sorbonne Nouvelle. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Simon Maisonneuve, rédaction en chef Franck Cognard. Chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
décembre 2001, Buenos Aires, Argentine. À quoi pense-t-il ce soir-là, Fernando de la Rúa, depuis la Casa Rosada, la célèbre Maison Rose, le siège du pouvoir exécutif argentin? L'homme de 64 ans est président de la République depuis 2 ans. 2 années d'une crise sans fin qui l'ont empêché de tenir les promesses annoncées dans son programme. Et le voilà au pied du mur, après une journée de manifestations sans précédent, partout à travers le pays. Pillages, émeutes ont gagné la célèbre place de Mai, le cœur politique de Buenos Aires. Ce soir, l'Argentine compte les premiers morts d'un mouvement qu'on n'appelle pas encore Argentinazo. Dans l'esprit du chef de l'État, des sentiments contraires probablement se mêlent. D'un côté, il a obtenu un sursis, avec le soutien des principaux dirigeants de l'opposition. Il a pu déclarer l'instauration de l'état de siège, une mesure d'exception qui suspend certaines libertés démocratiques et qui donne des pouvoirs plus importants à l'exécutif. De l'autre, il n'est pas anodin pour un président de la République démocratiquement élu d'instaurer l'état d'urgence dans un pays qui était encore une dictature militaire, il y a 20 ans. Et surtout, Fernando de la Rúa se sent au pied du mur, les mains liées par cette dette insurmontable, la banqueroute de son état, la misère qui gagne toutes les provinces. Face au pillage et à la révolte qui gronde, faire preuve d'autorité. Face à la colère et au ressentiment, montrer de la compréhension. Le visage tiré, le costume sombre, il est sur un fil, Fernando de la Rúa, à 22h41, lorsqu'il prend la parole.
Chers compatriotes, nous vivons une journée difficile. Le pays a connu des actes de violence qui mettent en danger les personnes et les biens et créent un état de trouble interne. Je vous informe que j'ai décrété l'état de siège dans tout le pays. J'en ai informé l'honorable Congrès. Notre pays traverse une période difficile qui marque l'aboutissement d'un long processus de détérioration. Dans un contexte économique et social où de nombreux Argentins souffrent de graves problèmes, des groupes ennemis de l'ordre de la République profitent de la situation pour tenter de semer la discorde et la violence en cherchant à créer un chaos qui leur permettent de manœuvrer pour atteindre des objectifs qu'ils ne peuvent pas atteindre par des moyens électoraux.
Les entend-il, le président argentin, depuis sa Casa Rosada, les Caseros Larros, ses concerts de casseroles qui, dès la fin de son discours, commencent déjà à parcourir la ville. Des fenêtres jusqu'au bas des immeubles, le bruit de la colère remplit les rues, les boulevards. Et pourquoi la casserole, au fait ? Car plus elle est vide, plus on a faim et plus elle fait du bruit.
Que veulent-ils, une bombe ? Ce n'est pas mon genre, alors je me défoule sur ma casserole. J'y faisais la purée de mes enfants. En la regardant, je saurais que ce sont des crapules qui nous volent. Mais j'aurais lutté pour mes droits.
Le bruit remonte petit à petit vers la place de Mai, la place où trône la pyramide, celle de l'indépendance du peuple argentin, celle où il se retrouve pour toutes les grandes occasions. Là où est, justement, la Casa Rosada. À l'annonce de l'état de siège, et donc à l'interdiction de manifester, le peuple répond directement. Les cris s'élèvent de la place, les cris du ras-le-bol, de la défiance complète envers ces élites politiques qui ne parviennent pas à sortir le pays de sa situation. Alors, les manifestants chantent et exigent « Que vayan todos », qu'ils en aillent tous, qui déjà s'impose comme le slogan de tout un peuple contre ces élites politiques économiques, institutionnels et leurs décennies d'échecs et de déceptions. Alors, comment Fernando de la Rua va-t-il réagir face à cette opposition spontanée et claire? Et d'abord, comment en est-on arrivé à une telle situation pour l'Argentine? Huitième puissance mondiale au début du siècle, aujourd'hui confrontée à des émeutes de la faim. Serait-il vraiment ce pays riche peuplé de pauvres, comme dit le dicton? Ce 19 décembre, tous le sentent, le sort de l'Argentine s'apprête à basculer. Pour comprendre ce moment, ce point de rupture, il faut comme souvent, et selon ce précepte d'affaires sensibles, regarder dans le rétroviseur.
En Argentine, c'est avec plus de 10% des voix d'avance que Fernando de la Rúa a été élu président, le troisième depuis le retour de la démocratie en 1983. Candidat de l'Alliance réunissant les radicaux et le centre-gauche, il succède au péroniste Carlos Menem, qui laisse derrière lui un pays endetté et en proie à la récession.
Le 24 octobre 1999, tout avait pourtant bien commencé. Élu président de la République à la tête de l'Alliance, cette coalition hétéroclite et originale avec le vieux parti radical de l'UCR et le FREPASO, ou Front pour un pays solidaire, mouvement de centre-gauche, mettait fin à une décennie de pouvoir, celle du président Carlos Menem. En plus de laisser le pays en crise, ce pouvoir-là est lié depuis plusieurs mois à des affaires de corruption qui ternissent largement l'image de Carlos Menem et du parti péroniste. Oui, péroniste, le mot est lâché. Impossible en effet de comprendre la politique argentine sans passer par la figure de Juan Perón. Premier président élu au suffrage universel dans ce pays, il gouverne de 1946 à 1955. Largement soutenu par la classe ouvrière, véritable artisan de l'Argentine moderne, l'héritage de Juan Perón et de sa femme, Eva, polarise la politique de cette nation attachante, terre d'immigration italienne où l'on parle espagnol, un mélange d'art de vivre italien et de movida espagnol. Enfin, quand tout va bien. Élu en 1989, Carlos Menem appartient au mouvement péroniste. Il arrive dans un contexte d'hyperinflation. On parle de 5000% sur cette seule année 89. Pour y faire face, avec son ministre de l'économie, Domingo Cavallo, le gouvernement applique les solutions recommandées par le FMI. Au programme, grande vague de privatisation et dollarisation de l'économie. Domingo Cavallo crée donc une nouvelle monnaie, le peso, et surtout le Currency Board, le plan de convertibilité, qui aligne cette nouvelle monnaie sur la devise américaine. Donc, un peso vaut désormais un dollar. Ces mesures attirent les entreprises et les capitaux étrangers. Et pendant 10 ans, l'Argentine surfe sur la vague néolibérale. Nommée élève modèle du FMI, elle ne voit pas encore l'arrière-plan de cette politique. Le chômage qui grimpe, les salaires qui baissent, les retraites par répartition qui passent en capitalisation, donc la chute des recettes publiques et la corruption toujours présente. Et le pays plonge dans la crise et il s'endette jusqu'à 132 milliards de dollars, des niveaux inédits pour l'époque. Il faut rompre avec tout cela, avait promis Fernando de la Rúa lors de son élection. Seulement voilà, à peine arrivé au pouvoir, ses promesses et celles de l'Alliance se brisent rapidement sur la dure réalité économique. Ce qui faisait la force de l'Argentine dans la décennie précédente devient son talon d'Achille. Le fameux currency board, la convertibilité du peso et du dollar, comme l'explique l'économiste Eli Cohen.
Les concurrents de l'Argentine dans la région, comme le Brésil, ont dévalué fortement, donc les produits argentins sont devenus moins compétitifs, et en même temps le dollar s'est réévalué. Donc l'Argentine a été prise à la gorge. Donc la solution à ce moment-là aurait été de revenir sur ce système qui ne marchait plus. On l'a maintenu. Et comme on l'a maintenu, eh bien, pour faire les fins de mois, on s'est de plus en plus endetté, et aujourd'hui, il faut payer la note.
En octobre 2000, un an seulement après leur arrivée au pouvoir, complètement bloquée, la coalition implose avec la démission du vice-président Carlos Alvarez. Et en mai, Fernando de la Rúa rappelle Domingo Cavallo à la tête du ministère de l'économie. Celui-ci revient à ses méthodes avec une loi zéro déficit. Ce qui veut dire restrictions budgétaires, réduction des salaires des fonctionnaires et des pensions de retraite, privatisation dans les domaines de la santé et de l'éducation. en août 2001. Il effectue un voyage secret aux États-Unis pour convaincre les banques américaines et la Réserve fédérale de négocier un nouveau prêt. Mais côté américain, la nouvelle administration du président George Bush s'inscrit dans une ligne libérale dure et lui donne une fin de non-recevoir. Pendant ce temps, l'inflation s'installe. En 2001, près de la moitié de la population argentine vit en dessous du seuil de pauvreté. Le nombre de conflits du travail dans le pays était de 266 entre 1995 et l'année 2000. On en compte 1006 juste pour l'année 2001. Les piqueteros, tirés du mot piquet de grève en français, une nouvelle forme de manifestation politique née dans la seconde moitié des années 90 face à la montée du chômage, se multiplient. Pour gagner en visibilité, les chômeurs commencent à se regrouper et à organiser des barrages de routes, notamment sur les grands axes vers Buenos Aires. Et là aussi, on fait les comptes. Il y avait 514 piqueteros pour l'année 2000. Ils sont déjà 996 pour les 9 premiers mois de cette année 2001. Dans les rues de Buenos Aires, un nouveau phénomène prend de l'ampleur, les recycleurs.
Comment je me suis retrouvé là ? Ben regardez autour de vous, on est nombreux ici. Dès la tombée de la nuit, les recycleurs envahissent Buenos Aires en silence. Les gouvernements successifs n'ont rien fait pour nous, dit-elle. Ils sont tous à blâmer. Aujourd'hui, les recycleurs occupent une telle place dans la vie de la cité que la mairie leur a attribué des trains spéciaux. Et toutes les nuits, les fonctionnaires du ministère du Travail distribuent un peu de nourriture et tentent de limiter le travail des enfants. Ils sont débordés. Vous savez, dit cette assistante sociale, tous ces gens avaient un travail il y a quelques années encore. Maintenant, ils sont chaque nuit plus nombreux à ramasser les déchets. Nous, on essaye d'organiser leur activité.
En octobre 2001, la colère s'exprime par une grève générale qui rassemble près de 50 000 personnes sur la place de Mai. Les pancartes affichent un mot d'ordre très clair. L'alliance, c'est la fin. Écrit F-A-I-M, bien sûr. Et puis en octobre, cette colère s'exprime dans les urnes. Deux ans après sa victoire, la coalition de l'alliance subit une défaite cuisante législative face aux péronistes et à la percée électorale impressionnante de l'extrême gauche. C'est dans ce contexte que l'Argentine se retrouve au dos du mur. Dans les coulisses du pouvoir, à la Casa Rosada, comme du côté du ministère de l'économie, l'inquiétude est à son comble. Fin novembre, 1 milliard de capitaux ont quitté les comptes bancaires argentins vers l'extérieur. À cela s'ajoute une chute vertigineuse des réserves de la Banque Centrale Argentine. Le gouvernement est incapable de tenir ses échéances de fin d'année pour le remboursement de la dette publique. Littéralement, le pays est en banqueroute. L'Argentine est au bord du précipice, enchaînée au plan de convertibilité auquel ne veut absolument pas renoncer le ministre de l'économie, Domingo Cavallo. Alors, le 3 décembre 2001, il prend une mesure drastique, le corralito. Les Argentins sont désormais limités pour leur retrait en banque, pas plus de 200 pesos par semaine, dans un pays où la majeure partie des échanges se fait en espèces. Dans le même temps, Cavallo gèle l'épargne des Argentins et interdit la sortie de capitaux du pays. L'économie est complètement asphyxiée. C'est le début de la catastrophe.
Para encontrarla, si ella me escucha, mi canto hace falta. Busco su voz para cantar, su garganta es mi garganta. Con ella estoy, vamos a andar su camino en la mañana. Mi a mi gente en estas mismas palabras se va. va la paciencia que ya se le acaba. Camino en la mañana, milonga así, para cantarle a mi gente. En estas mismas palabras se va la paciencia que ya se le acaba. De ella misma aprendí lo que a ella le daré con su voz, que es mi voz. En milonga cantaré, milonga sí, para cantarle a mi gente.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les émeutes de 2001 en Argentine, retour sur une crise historique.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
L'Argentine connaît une des plus graves crises économiques de son histoire. Le budget de l'an prochain sera amputé de plus de 20%. Le taux officiel de chômage dépasse les 18%. Et chaque Argentin ne peut retirer au maximum que 7000 francs par mois de son compte en banque. Pourtant, le président de la République tente de calmer les esprits.
La situation est sous contrôle et je sais que les Argentins sont des gens pacifiques. Mais les intérêts politiques sont en jeu. C'est ce qui trompe les gens.
L'Argentine était jusqu'à présent le pays le plus développé d'Amérique latine, mais si la situation économique perdure, elle risque de plonger dans le chaos.
Traversé par la crise, le président de la République, Fernando de la Rúa, et le ministre des Finances, Domingo Cavallo, maintiennent leur politique. Convertibilité par rapport au dollar et limitation des retraits pour les Argentins. Et pourquoi font-ils ça? Eh bien, en partie pour essayer de convaincre le FMI de leur accorder un nouveau prêt. Auprès de l'institution, Domingo Cavallo défend l'ancienne stature sérieuse de l'Argentine il y a moins de 10 ans. Et puis le FMI a récemment aidé la Russie en 98, ou la Turquie en 2000, par exemple. Le problème, c'est que là, sous la pression de Washington, le Fonds monétaire international adopte une position très ferme. Et puis, plus cyniquement, le FMI sait que sa contagion est limitée. Voilà 2 ans que les Argentins sont en crise et personne ne tombe avec eux. Et ici comme ailleurs, de nombreuses voix s'élèvent contre le fonds et son ingratitude. L'Argentine, l'élève modèle, n'a-t-elle pas appliqué toutes les recommandations de libéralisation et de restructuration? D'ailleurs, le FMI, n'est-il pas en partie responsable de cette situation? Ne doit-on pas y voir l'échec de sa politique? Le 6 décembre, le coup près tombe, le Fonds monétaire confirme qu'il n'accorde pas de nouveaux prêts. Avec le Corralito, Fernando de la Rúa et Domingo Cavallo se sont mis à dos la crise moyenne. Juste avant les fêtes de fin d'année, l'été austral. Voilà toute une classe d'Argentins empêchés de consommer. Et puis surtout, sans pouvoir retirer de l'argent, on ne peut rien acheter et on ne peut pas manger. La crise économique se transforme alors en crise sociale, avec l'agencement de différentes colères. Et bientôt, le 12 décembre, dans les rues du Buenos Aires, on entend le premier Cacerolazo, le concert de casseroles, qui signe que la classe moyenne et la petite bourgeoisie entrent également dans la danse. Les syndicats enchaînent. Le 13 décembre, à l'appel des 3 confédérations, une nouvelle journée de grève générale est lancée, largement suivie. Le 14 décembre, les premiers saqueos, les pillages, ont lieu dans les grandes villes de province, à Rosario et Mendoza. Bientôt, ils gagnent Buenos Aires.
Ils pillent parce qu'ils n'ont plus rien à manger, rien pour se vêtir et presque plus d'argent. Ces scènes se sont déroulées il y a quelques heures à Buenos Aires, la capitale argentine. La police peine à contenir la foule.
Je dis que le gouvernement doit payer pour les mesures qu'il a prises. Il doit voir comment le peuple souffre. Nous sommes rentrés dans le supermarché et demain nous referons la même chose. Et cela jusqu'au 24 décembre parce que le gouvernement nous y force.
Les images de pillage et d'émeutes de la faim dans un pays qui, dans l'imaginaire collectif, fait partie des pays développés et industrialisés, frappent les esprits. La journée du 19 décembre est particulièrement violente, avec de nombreux blessés et les premiers morts. Partout à travers le pays, les manifestations prennent de l'ampleur. À Cordoba, les manifestants s'attaquent à la mairie. À La Plata, ils essaient de pénétrer dans le Parlement de province. À Buenos Aires, dans l'après-midi, la rue A est conspuée au moment de sortir de sa voiture pour rejoindre une réunion de conciliation avec les représentants syndicaux, patronaux et l'Église. Voilà comment nous sommes arrivés à ce 19 décembre et à cette allocution du président. Quelques heures plus tard, Domingo Cavallo annonce sa démission. Première victoire pour les manifestants argentins. Surpris pour Fernando de la Rúa, comme le révèle le quotidien Clarín, quelques heures avant de prendre la parole, il demandait à ses conseillers « Est-ce que la chose est grave ?» Signe que décidément, l'aveuglement politique argentin dans ce moment historique est à son comble.
Je suis à 200 mètres de ce qu'on appelle la Plaza de Mayo, donc la place de Mayo, qui est en fait la place où se trouve la maison du gouvernement, la maison rose, et une bonne partie de l'administration publique. Il y a des gens qui sont en train de se manifester. Je sais que face à l'immeuble où habite le ministre Domingo Cavallo, donc celui qui a renoncé, qui a démissionné, il y a beaucoup de gens qui manifestent, qui souhaitent vivement qu'ils disent ce qu'on dit en espagnol, qu'ils donnent la tête, donc qu'ils fassent face aux gens, oui. Que puis-je vous dire? Il y a une certaine sorte d'explosion, même si on est tous à l'attente de voir ce qui va se passer. Quelles sont les mesures qui vont être prises par le gouvernement? Maintenant, on est en train de réprimer à la place de Mayo. Chez nous, l'état de siège est quelque chose que on n'aime pas trop. On n'aime pas du tout. Vous savez, on a passé par des processus militaires, par des situations vraiment très, très, très difficiles. On n'aime pas du tout cela.
Au petit matin du 20 décembre, la foule s'avance dans les rues de Buenos Aires. La canicule de l'été austral brûle les trottoirs de la ville. Les sans-chemise, ces jeunes torse nus caractéristiques des mouvements d'opposition aux Argentins, sont dans la rue. Au son des casseroles et du slogan qui s'impose, qu'ils s'en aillent tous, ils se regroupent pour réclamer la démission du président de la République, Fernando de la Rúa, et pour lever l'état de siège. En représailles, la police applique les ordres de la loi d'état d'urgence annoncée la veille et charge la foule. Arrestations, tirs de prévention, certains manifestants sont passés à tabac. À quelques mètres de là, devant le Congrès, un jeune manifestant est abattu alors que le cortège se retirait du bâtiment. Les jeunes et les classes moyennes des Caseros sont bientôt rejoints par les Piqueteros des banlieues de Buenos Aires. Les banques, les restaurants de fast-food, les grandes entreprises, les ministères, symboles du capitalisme et du pouvoir, sont pris pour cible. Des brigades sont érigées. Quant aux motoqueros, des jeunes coursiers à mobilette, ils jouent un rôle essentiel. Ils passent d'un regroupement à l'autre pour prévenir des déplacements de la police. Ils affolent les chevaux de la police montée avec leurs motos. Ils foncent sur les barrages. Deux d'entre eux sont tués. Bientôt, c'est au tour des maires de la place de Mai d'entrer en scène. Tous les jeudis, depuis la dictature qui a pris fin en 1983, ces femmes se retrouvent sur cette place, coiffées de leur voile blanc, et marchent autour, au nom de la vérité sur les disparus du régime militaire, leurs enfants. Et tout à coup, l'histoire du pays se replie. État d'urgence, répression violente, agrégat des manifestants de différentes couches sociales contre les effets de la crise et les dérives du pouvoir. Tout y est. Et bientôt, ce sont les Piqueteros qui rejoignent la place. Finalement, à 19h, les manifestants aperçoivent un hélicoptère au-dessus de la place de Mai.
J'ai gouverné ce pays avec loyauté et honnêteté. Et je quitte mes fonctions avec la profonde conviction que j'ai fait tout ce qui était nécessaire. Ce que je pensais être le plus important pour mon pays. Dans une situation économique comme celle-ci, il y avait très peu d'options.
Dans cet hélicoptère, hier soir, Fernando de la Rúa fuyait le palais présidentiel. Pressé par la rue, par deux jours d'émeutes et de violences meurtrières, 26 morts et des centaines de blessés. Il a jusqu'au dernier moment tenté de négocier sa survie politique avec ses adversaires de l'opposition péroniste, majoritaire au Parlement. Ces derniers ont refusé de former un gouvernement d'union nationale. Le président argentin n'avait donc plus le choix.
Il est bien difficile pour les manifestants de la place de Mai de fêter leur victoire. Car le bilan est terrible. Près de 7 personnes sont mortes lors des affrontements. Près d'une trentaine dans le pays. Et on compte plus de 300 blessés. Reste que le mouvement qu'on appelle désormais Argentinazo vient de remporter une victoire inédite. Car pour la première fois, un gouvernement démocratiquement élu est renversé non par un coup d'état militaire, et Dieu sait si l'Argentine en a connu, mais bien par l'action directe d'un mouvement social. Du côté du pouvoir aux abois, il faut aller vite. Le pays ne peut pas se permettre de rester avec un pouvoir vacant. Le Congrès se met alors d'accord sur un président intérimaire, Rodríguez Sá, péroniste, gouverneur de la petite province de San Luis, au profil gestionnaire, mais aussi autoritaire. Il devra assurer la présidence jusqu'aux élections du 3 mars. Seulement voilà, Rodríguez Sá, sans qu'il ait une carte à jouer, personnelle, et il se lance dans une série d'annonces à la fois pour calmer les différentes colères et pour tenter aussi d'imposer sa candidature. Il annonce la création d'un million d'emplois en un mois et d'une troisième monnaie pour contrer la convertibilité entre dollars et pesos qu'il a promis quelques jours plus tôt de supprimer. Mais rien n'y fait. La classe politique est déconsidérée. Les manifestations reprennent. Le 28 décembre, le Congrès est attaqué et incendié par des manifestants.
Rodríguez Sá n'aura été président qu'une petite semaine. Hier, il a tenté d'obtenir le soutien des gouverneurs de province de son parti, la formation péroniste. Seuls 5 d'entre eux sur 14 se sont rendus à sa convocation, un véritable camouflet dont il a tiré les conséquences.
Nombre de législateurs continuent de penser que leurs propres intérêts passent avant celui de la nation. Ceux qui me soutiennent ne représentent qu'une petite minorité crédible. Je n'ai donc d'autre choix que de présenter ma démission à l'Assemblée législative. Elle est irrévocable.
Le 30 décembre, Rodríguez Sá perd le soutien de ce même congrès et il démissionne. Coup sur coup, le mouvement vient de mettre dehors 2 présidents. Le 3 janvier, les sénateurs nomment Eduardo Duhalde, péroniste lui aussi, candidat lors de la dernière présidentielle à la stature plus installée. Signe qu'il a compris le fond du problème. Il déclare, au moment de son arrivée au pouvoir, « Nous sommes une classe dirigeante de merde et j'en fais partie. » Bon, ça calme. Et le fait, petit à petit, les Argentins s'apaisent. Duhalde met fin au plan de convertibilité cristalliseur de l'Argentinazo. Puis, le gouvernement met en place des filets de sécurité. Un assouplissement du corralito, une allocation familiale, une carte alimentaire et un soutien financier pour les organisations sociales locales. Le premier semestre de l'année 2002 est rythmé par la récession qui bat son plein. Et encore 2 millions d'Argentins passent au-dessous du seuil de pauvreté. Un an après la crise, à la fin de l'année 2002, on découvre des cas de malnutrition infantile dans certaines régions du pays qui fut pourtant, et pour un temps, le grenier du monde. Il faudra attendre 2006 pour que l'Argentine règle ses dettes avec le FMI, sans pour autant sortir de la crise. Il y a peu, le nouveau président, Javier Milei, a salué le retour d'un excédent financier du secteur public. Ce qui n'était pas arrivé, il est vrai, depuis cette fameuse crise de 2001. Comment ? En appliquant des recettes libérales connues, qui, comme le montre l'Argentinazo, et comme le savent désormais par cœur les Argentins, comme souvent, derrière le succès d'un jour, se cachent de sombres lendemains.
Aquí estamos parados, en medio de la vida, sin una fantasía para poder soñar. Así nos vamos todos juntitos a la mierda y de esta porquería nadie nos va a salvar. Aquí estamos sentados
esperando el tranvía, jugando ya en la vía y sin consolación. ¿De qué sirvió ser bueno, honesto y sin reproche, si en medio de esta noche no ves la solución?
Vámonos todos al carajo, cantando esta cruel canción.
Todo fue siempre un fracaso,
y así bailando vámonos hasta el cajón.
No fue hermosa la fatalidad. Si todo el mundo mete las manos en la nata, a vos te falta plata. Así es la realidad. Aquí estamos cansados de tanto despelote y no tener un bote en este diluvio. Ya no te salva nadie, ni Cristo ni hasta el Buda. Y este también se muda, se acaba la razón. O a siempre un fracaso,
y así bailando vámonos hasta el cajón. Y así bailando vámonos hasta el cajón. Y así bailando vámonos hasta el cajón.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
La crise économique en Argentine aujourd'hui, nous en parlons avec notre invité Carlos Quenant. Bonjour.
Bonjour.
Économiste, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à l'Université Sorbonne. Nouvelle. Les Argentins sont descendus dans la rue, oppressés par une crise qui les touchait directement dans leur vie quotidienne. Mais on n'oublie pas qu'avant, ces années-là, les Argentins ont connu des dictatures militaires terribles. Je pense à Videla, Galtieri, qui a eu des violences dans les rues. Il me semble, à travers le récit, je crois qu'on entend à un moment, je crois que c'est une Argentine qui dit « on n'est pas comme ça ». En gros, ça nous rappelle des mauvais souvenirs d'aller dans la rue, cette violence. Est-ce que c'était encore dans les têtes argentines, à cette époque-là, cette période de la dictature ?
Oui, je pense que c'était encore dans les têtes parce que finalement, on a vu que malgré les turbulences et les manifestations, il y a eu une issue dans le cadre de la Constitution, somme toute, et la démocratie a été préservée. Donc je pense que ceci est le résultat du fait qu'il y a eu cette dictature tellement
terrible,
violente. Tellement violente. Et d'une part, la question des disparus, qui était déjà connue et bien connue, et même s'il y a eu des allers-retours pour ce qui est du jugement des militaires de cette période de dictature, finalement, avait été clairement mise en évidence. Donc, c'était dans les têtes, dans le sens, me semble-t-il, que on voulait, malgré les difficultés, malgré les protestations, et que ce processus soit canalisé en termes démocratiques.
Ah oui. Et alors, l'Argentine, on le disait, a été, pendant un temps, quasiment le pays qui réussissait le mieux en Amérique du Sud. À quelle époque exactement et pourquoi ?
Disons que il y a un âge d'or de l'Argentine en termes de son insertion économique internationale dans les dernières décennies du 19e siècle et début du 20e siècle. Et l'Argentine est à ce moment-là un exportateur de produits de climat tempéré, de maïs, de blé et de viande également.
Et oui,
fameux bœuf argentin. Vers l'Europe, vers l'Angleterre notamment, pays qui est hégémonique à cette époque-là et qui est justement le principal investisseur étranger, le principal constructeur d'infrastructures. Donc c'est un pays très prospère, mais étroitement associée, pour le dire dans termes actuels, dans la chaîne des valeurs du secteur agroalimentaire et avec une relation privilégiée avec l'Angleterre. Ceci donne des taux de croissance importants, mais c'est un pays qui également attire des migrants, ce qui va bouleverser en quelque sorte les composantes en termes de population, avec une forte influence italienne, comme cela a été rappelé
dans le récit.
Et enfin, et un pays qui, malgré tout, n'est pas démocratique. C'est-à-dire qu'il y a des élections avec le vote qualifié, c'est-à-dire qu'il fallait savoir écrire et lire et écrire. Les choses commencent à évoluer du point de vue plus démocratique à partir de divers mouvements qui cherchent à instaurer le suffrage universel.
Et c'est quelle époque, ça ?
C'est 1915, autour du milieu de cette deuxième décennie. Mm-hmm. Hein, il y a une loi qu'on appelle loi San Espagne. Les premières élections démocratiques où on assiste à la victoire d'un mouvement contestataire de cet ordre libéral, oligarchique, conservateur, mais prospère, donnant lieu à une économie prospère, et avec le parti radical, le parti qui est au gouvernement, aussi bien lors du retour de la démocratie, Alfonsine, en 1983, et puis avec de la Rúa, lorsqu'il y a les événements que l'on a évoqués, surtout dans le récit. Donc on commence à avoir une situation où c'est plus démocratique, la dynamique de croissance persiste, mais finalement elle va être stoppée lors de la crise des années 30. Mais il y a une relance de la croissance par la suite, pendant la période péroniste,
dans les années 40. Après la guerre, juste
mais
après la guerre.
Mais très axé là, et avec un autre modèle économique, très axé vers le marché domestique, l'émergence d'un salariat, et avec un rôle de l'État beaucoup plus présent.
Et pendant la dictature, est-ce que la situation économique, qui est à peu près bonne à ce moment-là, continue à être bonne, ou est-ce que c'est avec la dictature que ça commence à pêcher, ou ça n'a pas de rapport avec le pouvoir politique ?
Disons que l'épuisement de ce modèle économique qui permet également une phase de croissance dans les années 50-60, et en partie pendant le péronisme initialement, les années 40-50, mais ça se poursuit par la suite, et ce modèle commence à s'épuiser avec une tendance inflationniste croissante. Il y a un moment de rupture important que tous les connaisseurs de la réalité argentine rappellent. C'est un grand mouvement, n'est-ce pas, de protestation qu'on appelle le Rodrigazo, du nom Celestino Rodrigo, le ministre de l'économie des années 70, lorsque le péronisme est au gouvernement, mais Perón est décédé déjà, et il commence à y avoir un affaiblissement notoire du gouvernement en place, qui a précipité par la suite le coup d'État militaire dans un contexte de forte violence politique dans le pays. Donc c'est à ce moment-là où, en quelque sorte, une crise inflationniste sonne l'éclat de toutes ces périodes précédentes, et les militaires arrivent avec une politique également d'austérité, d'ouverture économique, mais que finalement va créer les prémices probablement de cette accentuation des problèmes économiques de l'Argentine, parce qu'il va y avoir une forte ouverture financière, un endettement extérieur important, mais sans qu'il y ait une dynamique productive. Véritablement, l'Argentine continue à avoir cette économie, disons, très axée sur les exportations primaires, et avec une industrialisation qui ne se finance pas elle-même parce que c'est trop axé sur le marché domestique.
Et donc il y a la dette, la fameuse dette, c'est le fléau argentin. On va écouter une archive intéressante de ce point de vue-là, l'archive tirée d'un film superbe, un documentaire, Mémoire d'un saccage de Fernando Solanas.
À bien des égards, cette dette est illégitime. D'abord sur le fond, il est illégitime de rembourser les banques. Lorsqu'il y a 18 millions de pauvres et 9 millions d'indigents, il y a une priorité humaine. Ensuite, les banques ont appliqué des taux d'intérêt usuraires, à tel point que si l'on avait appliqué un taux d'intérêt normal, on aurait fini de payer la dette extérieure en 1988.
De quoi l'escroquerie ?
Les maisons mères ont fait des prêts à leurs filières, c'était donc des mouvements internes. On a assimilé ces prêts à la dette extérieure alors qu'ils étaient internes aux entreprises. On achetait des dollars ici qu'on déposait sur un compte aux USA. Avec la garantie de ce prêt, on obtient un prêt en Argentine pour acheter des dollars et ainsi de suite grâce à la différence du taux d'intérêt. C'est ce qu'on a appelé la bicyclette financière.
Bon, c'est un peu compliqué, ce sont des rouages économiques. Vous pensez, vous, que c'est une dette illégitime ?
Je pense que C'est très difficile de pouvoir assumer ce point de vue-là parce que, et quel que soit l'usage, qui a été mauvais, justement, pendant notamment cette période militaire, où il y a eu cette bicyclette financière, une financiarisation de l'économie, et profitant d'une forte abondance de fonds prêtables dans le monde, mais sans que cela débouche sur une utilisation productive. D'autres dictatures, dans la même période en Amérique latine, celle du Brésil et même celle de Pinochet au Chili, utilisent le flux financier pour réorienter le processus de production, l'appareil productif, et finalement sortent relativement renforcés, même si dans le cas du Chili, avec des fortes inégalités, très fortes, marquées, plus marquées que par le passé. Dans le cas de l'Argentine, il n'y a pas ça. Donc de ces côtés-là, effectivement, on peut se poser des questions sur l'utilisation de la dette. Mais c'est la signature du pays qui était quand même engagée, donc c'est très difficile. D'ailleurs, ça n'a pas été possible, malgré les débats qu'il y a eu au début de la période démocratique, d'envisager une quelconque déclaration d'illégitimité de cette dette auprès des instances internationales.
Et alors ça pose la question aussi du FMI. Je vais dire les choses de façon simple, hein, parce que les rouages économiques sont compliqués, je le répète. Le fonds, le FMI, ok, aide un pays, mais les contreparties sont dures en principe. Et est-ce que les contreparties ont été trop dures pour l'Argentine ?
En effet, disons, le Fonds monétaire international cherche à régler les problèmes des difficultés monétaires et des balances de paiement des pays lorsqu'ils sont très endettés en demandant des politiques d'austérité pour se serrant la ceinture, essayer de dégager une situation budgétaire plus favorable avec diminution des déficits, voire le développement d'excédents budgétaires pour rembourser les dettes. Cette conditionnalité, comme on appelle le Fonds monétaire international, s'est traduite en effet par des mesures assez dures à différents moments, pas très regardantes par rapport aux contraintes sociales. Au début de la période démocratique, par exemple, le président Alfonsine a cherché à convaincre les fonds monétaires internationaux et les banques internationales, qui étaient les créancières de l'Argentine et d'autres pays en développement, d'avoir une position plus souple, mais ça n'a pas été possible. Et ce qui est quand même assez important dans l'histoire récente de l'Argentine, comme le rappelle le Rassi, c'est que... il y a eu cette position, ce positionnement très dur en termes de mesures d'austérité, mais lorsque finalement l'Argentine n'a pas pu faire face aux engagements et que la situation devenait difficilement gérable, le Fonds monétaire a en quelque sorte livré l'Argentine à son sort en décembre 2001, ce qui a était à la base d'un processus interne du Fonds monétaire, la création d'une commission d'évaluation indépendante pour voir les erreurs commises,
parce que
ça a généré pas mal de remous à l'intérieur du Fonds monétaire international. Donc, en termes généraux, ça n'a pas été finalement un rôle positif, celui du Fonds monétaire, dans la gestion des crises d'endettement de l'Argentine et plus généralement de nombreux pays en développement.
Alors, les comparaisons sont souvent aventureuses, mais j'essaye. Ça me rappelle un peu la Grèce, quoi. La Grèce et l'Europe, hein, ce processus, on avait en Grèce un pays au bord de la faillite, ça pouvait gangrener toute l'Europe. Finalement, est-ce qu'on a, avec le Fonds monétaire et l'Argentine, quelque chose d'un peu similaire ?
Et en effet, disons, il y a longtemps, vers 2010-2011, j'avais fait un papier justement de comparaison entre l'Argentine et la Grèce. Ça a été une question de débat dans les milieux académiques et politiques, parce que, bon, il y avait quelques similitudes, d'un endettement que finalement n'avait pas donné des fruits importants en termes productifs, même si la Grèce avait vraiment modernisé son infrastructure, ça n'avait pas généré une dynamique d'exportatrice différente. Ça continuait à être, on disait de manière un peu simplifiée, un pays producteur d'olives et touristique. Et donc la crise internationale, celle de 2008-2009 à l'époque, et son processus de déploiement vers le reste du monde avait fragilisé ce qui était déjà fragile, et type Grèce, etc. Et les politiques du Fonds monétaire international ont généré pas mal de débats, comme dans le cas de l'Argentine, parce que c'était des politiques d'austérité très dures, en cherchant à obtenir des excédents budgétaires dans l'immédiat. Et malheureusement, les voix qui se sont levées ici et là pour chercher une autre perspective, par exemple, avoir dessiner une trajectoire de reconversion productive de la Grèce. Et dans ces contextes-là, progressivement, chercher à ce qu'il y ait un retour à l'équilibre budgétaire et rembourser les dettes de manière un peu plus saine, pour ainsi dire, ces positionnements-là n'ont pas été suivis. C'est vrai que on se retrouve face à différentes contraintes. Par exemple, la contrainte du système financier international qui veut être remboursé, que parfois, disons, la santé financière de différentes banques ou institutions peut être compromise. Mm-hmm. Si un pays avec une dette souveraine importante n'arrive pas,
n'est pas à rembourser. Ouais.
Voilà. Donc, il y a des similitudes entre les deux cas.
Bien, on continue à parler de l'Argentine dans 3 minutes. On écoute Bonnie Banane, franchement.
Affaires sensibles.
Carlos Conan, je rappelle que vous êtes économiste, professeur à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à l'Université Sorbonne Nouvelle. Il y a aussi la question de la classe politique de l'époque. Quand le président dit c'est grave ce qui se passe, on se pose des questions quand même.
Oui, évidemment. Dans ce cas, le président de la Rue a été malheureusement dépassé oui. par les circonstances, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais peut-être que cela aussi rend compte d'une certaine médiocrité plus générale, n'est-ce pas, de la classe politique, comme on dit, des dirigeants politiques de l'Argentine, parce que ce qui s'est passé par la suite, même s'il y a eu une reprise, relance de l'économie dans les années 2000, fortement associé à des politiques de redistribution, notamment dans le premier gouvernement du président Néstor Kirchner, mais aussi à un contexte favorable, disons, de super cycle de matières premières, etc. Et cette impression d'une diligence politique relativement faible, disons, et parfois corrompue.
Voilà, j'allais y venir. C'est quand même un deuxième problème.
Voilà, et apparaît très, très, très marqué. Et c'est là une des raisons de l'émergence de Javier Milei et au cours des années récentes.
Dont on va parler maintenant. Le nouveau président, donc Javier Milei, on écoute de lui une déclaration récente.
Je veux dire à tous les Argentins que je comprends que la situation que nous vivons ici est difficile. Mais nous avons déjà fait plus de la moitié du chemin. C'était la dernière ligne droite d'un effort héroïque que nous, Argentins, sommes en train de faire. Et pour la première fois cette fois-ci, l'effort en vaudra la peine. Je tiens à annoncer que le secteur public national a enregistré un excédent financier de plus de 275 milliards de pesos au mois de mars, réalisant ainsi, après plus de 20 ans, un excédent financier de 0,2% du PIB au cours du premier trimestre de l'année.
De quelle situation difficile parle Javier Milei ? Quand il dit on est encore dans une situation difficile, ça veut dire que cette crise de la dette, cette crise économique dont nous avons parlé, des années 2000, 2001, 2002, traînait encore son cortège d'anomalies et de malheurs sociaux.
Et disons que sur le fond de déclin économique qui véritablement commence au milieu des années 70 et qui n'a pas été enrayé par les différents gouvernements, malgré des conjonctures plus favorables, moins défavorables, et bien, sur le fond de ce déclin-là, Milei émerge avec une situation qui est difficile parce que les deux gouvernements qui le précèdent, l'un de centre-droit de l'ancien président Macri, l'autre de centre-gauche, disons pour utiliser les critères un peu occidentaux, qui est celui du président Alberto Fernandez, n'ont pas réussi à améliorer la situation. L'inflation a été in crescendo. Bien sûr, la pandémie n'a pas arrangé les choses, mais cet échec des deux gouvernements précédents sous fond de déclin et une inflation qui s'accélère et qui était à un rythme annuel de plus en plus élevé et en décembre 2023, avec risque d'hyperinflation, c'est ça la situation difficile qu'évoque le président Milei.
Alors, ces recettes, elles sont ouvertement libérales.
Ultra-libérales.
Ultra-libérales, même.
Oui. C'est clair que, sur la base d'un discours qui, lui-même, nomme libertarien, c'est-à-dire qui est ultra-libéral, s'inspirant de la dite école autrichienne, disons, et de ses variants les plus radicaux. C'est-à-dire, par exemple, l'idée que l'État est per se mauvais, qu'il faut démanteler l'État, atterrit un petit peu tout ça, a décliné tout ça par rapport à la réalité argentine en disant la cause des problèmes de l'Argentine et de ce déclin qu'il date du début du XXe siècle. C'est une chose importante pour lui dès lors que l'on commence à abandonner l'orientation très libérale qui était en vigueur, comme je l'ai rappelé là, en fin du XIXe, début du XXe, ça commence à marquer l'économie argentine commence à marquer le pas et c'est le début d'un déclin. En fait, pour atterrir tout ça en termes concrets pour la réalité argentine, c'est une classe politique qui n'a fait que renforcer l'État, corrompu, une caste, dit-il, qu'il faut attaquer. Et donc, avec une simplification brutale, on dirait, c'est la politique qui est le coupable de tout.
Mais ce n'est pas un prétexte facile pour s'attaquer à l'État.
Sans doute, parce qu'il est clair que des réformes importantes s'imposaient pour alléger...
Je veux dire, l'État en tant qu'agent économique. Hein
oui, c'est là c'est clair, et ça on le voit, et les premières mesures qu'il adopte c'est un choc d'austérité brutal, en essayant de diminuer justement les dépenses publiques, mais ceci, il y a une loi qu'on appelle loi base, et point de départ pour retrouver la liberté pour les Argentins, ça veut dire ça, et ça rappelle également des termes utilisés au 19e siècle, les bases pour l'organisation de l'État argentin, bref. Dans cette perspective-là, on se propose, par exemple, une privatisation d'entreprises publiques. Ce projet de loi va échouer parce qu'une autre caractéristique de Milei, c'est que cet outsider, qui rappelle par certains côtés d'autres phénomènes comme Trump, etc.
Et Bolsonaro, puisque nous sommes en Amérique du Sud.
Et Bolsonaro, bien évidemment. Il n'a pas véritablement une structure politique au début. Il n'a pas de gouverneur, il n'a pas de majorité dans les chambres. Donc, ce premier projet de loi va échouer. Les mesures d'austérité sont en pratique, disons, ça c'est clair. Et ça lui permet d'arriver à cet équilibre budgétaire ou à ce léger excédent, dont la question qui se pose essentiellement, c'est la soutenabilité en termes de tolérance sociale et politique et même de cohérence économique. Mais dans cette perspective-là, le président Milei cherche à montrer que l'État est la cause de tous les problèmes. Et qu'il faut diminuer son poids, les régulations qui étouffent l'économie argentine.
C'est exactement ce que disait Reagan quand il a pris le pouvoir en 1980. Problem is state. Ça se recoupe. On n'a plus le temps. Merci infiniment, en tout cas pour vos éclairages économiques sur cette situation argentine. Merci encore. Au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la crise économique en Argentine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïs Moreau. Demain, nous évoquerons l'affaire Polanski. Et pour l'instant, nous retrouverons Zoom Zoom Zen. Nous retrouvons Zoom Zoom Zen avec Mathieu Noël et son orchestre.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
De plus en plus jeune, le portable devient une addiction.
Pour les enfants.
Comment dompter les écrans ?
Hey ! À Radio France, on a la solution. Les podcasts jeunesse.